instrumentale et la didactique de sa discipline.
Merci. Bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas encore vus. Alors, je suis contente de participer à ce colloque sur gestion mentale et liberté. Alors, moi, je vais intervenir en tant que professeure de sciences économiques et sociales en lycée. Donc, sciences économiques et sociales, en un mot, c'est économie et sociologie. Hein. Comme on a des professeurs d'histoire, géographie, on a des professeurs de sciences économiques et sociales. Alors, qu'apporte la GM dans la dynamique des SES, hein, sciences économiques et sociales, en termes de liberté? Quand je pense à l'école et donc au lycée, hein, puisque moi j'enseigne au lycée depuis plus de 30 ans, j'avoue que je pense davantage contrainte, le programme, puisqu'on va vers le bac, les horaires, le rythme, toutes les 55 minutes, la salle se vide et la salle, un nouveau public qui arrive. Et si je pense à cette année, moi j'ai 4 classes de seconde. Et elles ont toutes entre 32 et 35 élèves, et non dédoublées. Donc ma problématique, c'est faire de sciences économiques et sociales avec un groupe de 35 élèves. Et je me suis posé la question sur comment introduire la gestion mentale pour les aider à progresser. Alors, il m'a fallu du temps. Moi, ça fait pas tout à fait 10 ans que je fais de la gestion mentale, déjà pour faire le point par rapport à moi-même, hein, qui j'étais, en termes de gestion mentale, et puis ensuite, comment faire? Et je suis revenue plusieurs fois de formation, j'ai fait ma formation en Belgique en me disant, d'accord, là j'ai un cerveau gestion mentale, et en même temps, demain mon cours c'est l'incidence des variations du taux d'intérêt directeur de la Banque Centrale Européenne sur les politiques monétaires. Et j'avoue, j'avais du mal à me dire, mais quand est-ce que je vais placer quelque chose en gestion mentale? Donc j'étais désorientée, intéressée, mais désorientée pendant pas mal de temps. D'autant plus que la GM a un corpus théorique très très lourd, et ça, ça me plaisait beaucoup. Et donc si je pense à la liberté, ce qui m'a guidée, c'est d'avoir la liberté pédagogique. Donc la possibilité d'introduire quelque chose qui me plaisait. Et d'autre part, le projet que j'ai de permettre aux jeunes d'accéder à l'autonomie, c'est-à-dire de construire leur vie, de savoir qui ils sont, de choisir leur voie. Alors, par rapport à ça, j'ai envie de vous proposer 3 éclairages. Parler de la mise en projet du jeune, mais également du professeur, du geste d'attention, qui est vraiment fondamental, et un troisième éclairage, le dialogue pédagogique. Alors, la mise en projet, pour moi, c'est la mise en projet vers la liberté. Alors, les sciences économiques et sociales offrent vraiment une grande possibilité, parce qu'on aborde des thèmes de la vie courante. Je pars avec l'entreprise, le ménage, la consommation, la famille, la délinquance. Et donc là, les jeunes ont l'énergie déjà, ils ont un avis personnel, ils ont aussi des représentations, mais ils peuvent s'engager. Après, il va falloir structurer les objectifs et les moyens, les miens, mais aussi surtout les leurs. Alors, la deuxième spécificité des sciences économiques et sociales, c'est qu'elle est traversée par des courants qui sont pour le moins fortement opposés. Hein. Si je pense à la lutte contre le chômage, certains vont vous dire il faut baisser les salaires, comme ça les entrepreneurs vont pouvoir embaucher, et d'autres dire surtout pas baisser les salaires, parce que les salaires c'est la consommation, c'est la demande, et ça soutient l'activité économique. Et donc là aussi, les jeunes vont leur dire, voilà, t'as des choses à savoir, mais t'as un avis. Et en tant que citoyen, tu vas pouvoir comprendre ce qui se passe dans ta société. Alors, la liberté de l'élève, c'est de se mettre en projet. Certains arrivent plutôt avec les objectifs, d'autres plutôt avec les moyens. Et ça, ça me paraît important, puisqu'on sait que la motivation interne, ça va être se sentir compétent. Et donc là, il y a cette énergie au départ de « j'ai un avis ». Et puis la deuxième chose, c'est avoir une marge de liberté. Et la marge de liberté va mettre le jeune en route. Alors, de mon côté, sur la mise en projet, en tant que professeur, il y a eu la question de ma propre mise en projet par rapport à cette question de la gestion mentale, et j'ai dû éclaircir, et je suis passée par mettre de la cohérence dans ce que je faisais. Et j'ai envie de vous projeter un schéma qui, moi, m'a vraiment éclairé pour savoir ce que je pouvais faire avec la gestion mentale. Vous le connaissez sans doute, c'est le triangle pédagogique de Jean Rousset. où on a d'un côté le professeur, le savoir et les élèves. Alors, traditionnellement, c'est le professeur, le savoir. On a été formé à l'université, voilà, on est pointu dans sa matière. Il s'agit donc d'enseigner, c'est la place du professeur. D'un autre côté, on a l'élève face au savoir, et s'il devient autonome, à un moment, il n'a même plus besoin de nous, et lui, il a à apprendre. Et puis, donc, Jean Housset souligne la troisième relation qui est entre le professeur et les élèves. Le jeune peut progresser en gestion mentale, mais il va se passer quelque chose aussi au niveau de ce qu'il appelle former. Et si je reprends une phrase dans son livre sur le triangle pédagogique, former, c'est arriver à préciser ensemble la manière dont on va intégrer le savoir. Et traditionnellement, on dit, ben voilà, mettre une bonne ambiance, passer un contrat de classe, toutes choses qui sont extrêmement importantes. Mais pour moi, le jour où je me suis dit, mais bien sûr, discuter de gestion mentale avec eux, ça va pouvoir se faire dans ces temps-là. Ce qui me permettait de garder l'aspect sciences économiques et sociales, parce que quand je les rencontre, c'est pas pour faire de la gestion mentale, moi je suis prof de sciences économiques et sociales, mais là il y avait une entrée qui m'a donné une cohérence et qui m'a permis d'avancer avec eux et surtout avec moi, pour savoir ce que je pouvais leur présenter. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est le geste d'attention. Alors ça c'est vraiment une révélation, ça a été une révélation pour moi. Le moment où l'élève peut découvrir ses habitudes évocatives, où il peut se découvrir comme apprenant et comme individu, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, je vais vous montrer un tout petit extrait de ce qui peut se passer en cours, ce que je pourrais faire maintenant, et après je vous montrerai comment je faisais avant. C'est-à-dire en quoi la gestion mentale, moi, elle m'a donné aussi beaucoup plus de liberté. Alors, c'est un tout petit exercice extrait du programme de seconde. Je vous lis la consigne et puis après, je vous la montre. Voici les différentes consommations d'un ménage. Observez ces 8 photos avec le projet de les garder en tête sous forme d'images ou de phrases afin de pouvoir les réciter. Notre objectif global est d'étudier l'évolution du budget des ménages. Voilà la consigne, telle que je la projette en cours. Et voilà les 8 photos, je vous laisse quelques secondes. Et donc, à partir de là, évidemment, je donne la parole à la salle. On va parler d'économie dans un premier temps, et puis à un moment, on va pouvoir basculer sur voilà. Et comment tu as fait pour te souvenir? Et comment un autre a fait? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est différent? Ce temps-là, je me suis aperçue que ça permettait premièrement d'avoir une concentration vraiment assez exceptionnel durant les cours, y compris de gens assez instables avec des comportements parfois agressifs. Le deuxième avantage, c'est que je me suis aperçu que ça permettait de faire de la différenciation. C'est-à-dire que sur des images telles que je vous les ai montrées, il y a évidemment des gens qui sont très sur l'image elle-même, qui par exemple, si je vous le remets, disent essence et ne sortent pas d'essence, et certains sont déjà à transport. Certains, comme il a été annoncé qu'on allait travailler sur le budget, commencent à discuter du poids d'une dépense par rapport à une autre. Et donc la classe avance, j'allais dire toute seule, et chacun à son rythme. Ce qui va permettre après d'aller vers un document économique un peu plus complexe, et c'est par ce document-là qu'autrefois moi je commençais. Alors je vois que ça en fait rire certains, mais moi je trouvais que c'était normal de commencer par ça. Et donc, quand on commençait par ça, évidemment, moi, mon objectif, c'était tout de suite, est-ce que vous pouvez me dire le 12,8 ? En soulignant que ça s'appelle un coefficient budgétaire, donc la part d'une dépense dans un ensemble. Mais qu'il ne faut pas se tromper d'ensemble, parce qu'on est sur 100%, mais en fait, derrière les 100% de 1960 et de 2012, ce n'est pas du tout la même somme en euros. Et maintenant, quand je projette ce type de document, bien sûr, j'ai cette aide qui est quel lien vous faites entre ce document et l'exercice qu'on a fait avant. Et là, ben, ça passe de manière beaucoup plus simple. Et donc, ce geste d'attention en décomposant sur des choses simples, en faisant un lien avec leur quotidien, ça m'a vraiment permis d'aborder des choses qui, progressivement, deviennent complexes. Voilà, ça, c'est là-dessus. J'ai envie de dire aussi, sur le geste d'attention, pratiquer sans le dire, ça accorde plus de liberté aux élèves. Parce que, voilà, il y a « faites des fiches de révision ». Ah non, non, il faut souligner avec un sabot rose. Et puis après, il y a « ah non, il faut voir dans sa tête ». Ah ben non, il faut entendre dans sa tête. Et donc, ça crée, je trouve, chez l'élève, il faut faire comme ça, avec tel prof, voilà, il a sa marotte. Et donc, moi, je dis, chacun fait comme il veut. Et puis, évidemment, après, on va pouvoir comparer un petit peu la manière dont on travaille. Mon troisième point, c'est sur le dialogue pédagogique. Sur le dialogue pédagogique. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que, bon, le DP, on l'a répété plusieurs fois, ça permet de faire émerger les habitudes évocatives. Moi, je suis très sensible au projet de sens. Et là aussi, sans leur expliquer, et je trouve que c'est un travail important pour l'enseignant, c'est d'observer. Observer ce qui se passe. Alors, observer, ça ne veut pas dire des fiches, hein. Cette année, j'ai 140 élèves de seconde. Je ne me vois pas prendre des notes sur 140 personnes. Et à partir de là, j'ai réfléchi, mais comment eux, ils peuvent devenir autonomes? Et au-delà de l'écoute, de la reformulation, j'ai mis un petit peu de temps et je me suis dit, il faut qu'ils gardent une trace écrite. Alors, quand ils veulent, pas tout le temps, mais mon rôle, ça va être de leur proposer de garder une trace écrite. Et donc, j'ai fait des petits polis, très simples, polis de fin de chapitre, où il y a un mélange d'économie, mais aussi de comment j'ai vécu le chapitre, comment je me l'approprie, et de quoi j'aurai besoin, en vue d'un prochain devoir, ou même à plus long terme. Il y a aussi des polis, donc, enfin, c'est de la métacognition, hein, sur après le devoir, qu'est-ce qui s'est passé pour moi, qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce que j'ai envie de changer. Et à partir de là, je trouve que ça leur donne aussi beaucoup de liberté, parce qu'il n'y a pas de pression, c'est toujours une proposition pour qu'ils puissent avancer. À titre de conclusion, parce que je vois que le temps tourne, j'ai envie de dire que travailler les sciences économiques avec la gestion mentale, c'est donner des permissions aux élèves, et c'est se donner des permissions à soi-même de les lâcher, de les voir évoluer, sans avoir la crainte de ne pas faire son travail ou son programme. Et moi, ça m'a appris à leur accorder beaucoup plus de bienveillance et moins de contrôle. En leur faisant davantage confiance, je m'aperçois qu'ils avancent tout seuls, et c'est vrai que ça a été une découverte que m'a confirmée la gestion mentale. Voilà. Merci de votre attention.
Merci beaucoup, Sylvie, pour ce témoignage et cette analyse. On va passer maintenant à Raphaël, voilà, qui va nous parler de son expérience sur la didactique du sport, de l'EPS. Voilà, il a enseigné dans différents collèges, à différents niveaux sociaux assez différents, et aujourd'hui il accompagne des élèves en difficulté personnelle et aussi dans sa classe. Voilà, merci.
Bonjour. Avant de vous décrire ma didactique de mon art d'enseigner l'éducation physique, je voudrais tout d'abord préciser ce que j'entends par liberté. Alors, tout d'abord, je rapprocherai la liberté de la motivation telle que la conçoit Antoine de la Garandrie, une motivation portée par un projet de développement de soi, un projet de plus-être où la personne est en cheminement, portée par des objectifs personnels. C'est aussi une motivation animée par le sentiment de se sentir capable et d'avoir le sentiment de ses ressources et de posséder un certain nombre de moyens. Au final, c'est une motivation qui s'articule autour de motifs, de finalités, avec la maîtrise de moyens basée sur la recherche de plaisir d'acte. Et je dirais que la recherche de plaisir d'état qu'on peut voir en sport rend dépendant, notamment autour des normes de réussite. La motivation s'éveille lorsqu'on a découvert des infinis progrès. Et tout mon travail avec les élèves, c'est de leur faire toucher du doigt les possibilités de progrès qu'ils possèdent. C'est dans la recherche de ces progrès infinis que l'on devient libre. Toute ma didactique s'attache à initier, à sensibiliser les élèves aux finalités des activités et à donner sens de progrès aux techniques et aux savoir-faire du corps, et non pas que ces techniques aient un sens d'obéissance. Voilà, c'est ce qu'il y a pu avoir régulièrement en éducation physique. Et pour les élèves, l'apprentissage des techniques était juste une obéissance à des injonctions de mouvement. Le deuxième axe de être libre, c'est aussi maîtriser. C'est aussi maîtriser sa volonté. Dans la motivation, Antoine de la Gardie précise bien ce qu'est pour lui la volonté. Il considère qu'il y a quatre facteurs de la volonté, que sont l'initiative, la décision, la maîtrise de soi et la ténacité. Et à l'école, on sollicite beaucoup les élèves sur la ténacité, la maîtrise de soi, mais l'initiative, la décision est très peu sollicitée. Et donc, moi, dans mes cours, j'essaye de faire place à l'initiative et à la décision. Je propose souvent aux élèves des situations où ils ont à choisir un certain nombre de choses. La formation de la volonté, pour moi, le sens aussi que je donne aux activités physiques et sportives, c'est dans ce cadre-là que les élèves vont pouvoir développer leur volonté. Et avoir la maîtrise de sa volonté, c'est aussi s'offrir les chances de faire dépendre sa vie de soi et de s'offrir des chances d'une motivation sans cesse renouvelée. Alors maintenant, je vais vous décrire les deux grands aspects de ma démarche didactique qui peut varier suivant les conditions dans lesquelles j'enseigne. Quelquefois, je peux avoir un gymnase avec quatre barres parallèles, des fosses de réception, plein de trampolines, des grands praticables, où là, j'ai 20 élèves, et là, on peut faire plein de choses, et les élèves, je peux leur proposer, faire des saltos. Et quelquefois, j'ai une petite salle, une chapelle, avec des radiateurs en fonte tous les 3 mètres, et j'ai 15 mètres sur 8 mètres. Donc là, je ne vais peut-être pas leur proposer de faire du salto avant, ils pourraient prendre des risques. Donc, mes propositions didactiques sont toujours en rapport avec les conditions dans lesquelles j'enseigne. Et puis aussi en rapport avec le groupe classe, qui peut vraiment varier. Il m'est arrivé une année d'avoir l'équipe de Normandie de basket. Tous les élèves étaient dans la classe. J'avais aussi la championne de BMX aussi dans cette classe, la championne du monde de BMX. Et donc, ça crée des dynamiques de classe, des élèves qui sont déjà motivés. Et je peux avoir des classes avec des élèves qui se sentent humiliés par leur corps, par ce qu'ils pensent pouvoir faire. Et donc, c'est pas du tout la même pédagogie que j'ai employée avec l'une ou l'autre des classes. Mais j'ai quand même une démarche d'enseignement et qui a pour vocation de susciter l'envie d'apprendre. Cette démarche, je reprends les différents concepts de la gestion mentale. Tout d'abord, je pourrais considérer ma discipline comme un enseignement de savoir-faire corporel dans un champ culturel qu'est le sport, et un enseignement de savoir sur le corps en lien avec l'action. Donc on va étudier le fonctionnement cardiaque lors de la course à pied. Mais on va voir aussi des techniques de saut en hauteur, de lancer de javelot, de tir au but au football, etc. Donc toute ma stratégie va être de donner sens d'efficacité à ces techniques, et non pas d'obéissance. C'est-à-dire que les élèves aient envie d'acquérir une motricité reconnue comme efficace pour servir des progrès personnels. Ce que je cherche, c'est que ces techniques viennent répondre à des besoins de progrès. C'est pour cela que je vais toujours confronter les élèves à la logique interne des activités. C'est-à-dire que chaque activité sportive est traversée par une logique interne. La lutte, c'est amener l'adversaire, les deux épaules sur le tapis et le maintenir 3 secondes. La vitesse, c'est le sprint, c'est courir le plus vite possible sur une distance allant de 10 à 20 secondes. Donc il y a toujours une logique interne des activités, des finalités qui sont propres aux activités, mais qui ne sont pas encore les finalités des élèves, pour certains. Là, ils n'en ont rien à faire de courir vite. Donc toute ma stratégie, c'est qu'ils aient envie de courir vite. Alors donc, au départ, je fais en sorte qu'ils essayent, qu'ils se confrontent aux finalités des activités. Marquer un but. Ça peut être marquer un but. C'est plaquer l'adversaire, comme je vous l'ai dit, au sol 3 secondes en lutte. Ça peut être grimper jusqu'au sommet en escalade. Ça peut être lancer le javelot le plus loin possible. Ça peut être marquer un but de plus
que Lyon.
Que Lyon.
Pour Saint-Étienne.
Pour Saint-Étienne.
Parce que Lyon, c'est la banlieue de Saint-Étienne. En matière, il faut pas
ici. Je l'avais noté. Hein. Et je dirais que les élèves sont naturellement portés par ce projet de produire des effets avec leur corps. Mais pas tous. Il y en a, des élèves, si je les confronte tout de suite aux activités, ils ne vont pas du tout apprécier ça. Ils vont avoir besoin que je leur donne des moyens. Notamment en lutte, je vois régulièrement, si je leur demande de faire un combat en lutte, ils ne vont pas du tout apprécier ça. Il va falloir que je leur donne des techniques pour mettre l'autre sur les épaules. Alors, dans un deuxième temps, une fois que je les ai confrontés aux finalités des activités, je vais mettre en place deux dispositifs. Un dispositif où ils vont essayer de battre leur record, et je vais leur proposer un autre dispositif où ils vont essayer de faire mieux que le copain. Mais à chaque fois, c'est une proposition. Ils ne sont pas obligés de faire l'un ou l'autre. Et je fais en sorte qu'à chaque fois que les performances ne soient pas... J'en fais pas la publicité des performances. Je fais en sorte de rester discret par rapport à la production de leur motricité et de faire en sorte qu'ils choisissent, s'ils choisissent la compétition, qu'ils le fassent avec des personnes qu'ils ont choisies. Donc que les élèves choisissent leur mode de groupement dans ce cadre-là. Donc je peux avoir à la fin, quand je mets en place le dispositif de record ou de compétition, je peux avoir des élèves qui, à la fin du cours, ils me demandent de rester encore une demi-heure. J'ai une dizaine à lancer Diablo, j'ai des élèves qui restent, qui peuvent rester au moins une demi-heure à continuer à lancer Diablo pour battre le record ou pour faire mieux que le copain. Et alors, je leur dis quelquefois, bon, je ferme la lumière, je m'en vais, vous rangerez tout. Mais il y a des élèves, je ne peux plus les arrêter. Je ne les force pas du tout. Notamment, j'ai un gabin, là, c'était l'année dernière, et un quart d'heure après le cours, il continuait à courir pour essayer de passer sous les 7 secondes aux 40 mètres. Et il y arrivait à la fin. Je suis allé voir son père, après je lui dis, je l'adopte. Il avait tellement tellement porté par ce plaisir de dépassement de lui-même, l'action n'était pas du tout une contrainte pour lui. Je fais aussi toujours en sorte de valoriser chaque performance. Chaque performance, je fais en sorte que l'élève se sente valorisé à travers ce qu'il fait. Et alors là, je ne suis pas tout puissant, parce que j'ai beau qu'elle pouvait dire « c'est bien ce que tu fais », il reste toujours avec son idée que c'est nul ce qu'il fait. Alors là, l'objectif de ce travail sur le record et la compétition, c'est le fait que l'élève s'identifie à l'activité, que s'attache à ses performances et commence à se personnaliser au sein de l'activité. Et c'est à partir de là que je vais aborder les techniques. À partir du moment où je sens que les élèves sont pris par l'idée du dépassement d'eux-mêmes, que je vais apporter un certain nombre d'éléments qui va leur permettre de progresser dans l'activité. Alors, je fais attention de ne pas prolonger la recherche du record ou de la compétition, parce que les élèves peuvent très vite se sentir limités, parce qu'ils ne progressent plus. Donc, je fais très attention à ne pas rester trop longtemps sur ce temps-là. Une fois que... Je vais aborder ensuite les techniques sous la forme d'une problématique. C'est-à-dire que je vais leur proposer une situation. Tiens, votre adversaire en lutte est sur le ventre. Voilà, il s'est plaqué sur le ventre. Comment vous faites pour le retourner sur le dos? Ou je peux leur proposer aussi Si je veux travailler la réactivité au départ du 50 mètres en sprint, en athlétisme, je peux leur proposer deux situations. Une situation où ils partent quand ils veulent, le chrono se déclenche au moment où ils partent, et une situation où je donne le départ. Et je vais les amener à comparer leurs performances, et je vais leur demander, mais pourquoi c'est différent? Pourquoi vous faites un meilleur temps quand c'est vous qui partez que quand c'est moi qui donne le départ? Et donc là, je les amène à faire émerger le besoin d'une réactivité et de voir comment je peux partir plus vite. Parce que c'est ce temps-là, au signal, que le temps que l'information arrive au cerveau, que je déclenche mon action, là je perds du temps. Alors que quand c'est moi qui pars de mon plein gré, j'ai pas cette perte de temps d'intégration du signal. Donc à partir de ce moment-là, on va voir ensemble comment faire pour partir plus vite. Donc il y a être en projet de partir vite et de mettre ses muscles en tension dès le départ. Donc là, c'est une problématique que je peux mettre en place. Je peux mettre aussi comment se positionner au départ. Alors, je peux leur proposer deux situations. Une situation où je suis debout, pieds joints, jambes tendues, et une situation où je suis pied décalé et les jambes semi-fléchies. Et on est amené à comparer les performances. Alors, et à essayer de comprendre pourquoi je suis plus rapide quand j'ai les deux pieds décalés que quand j'ai les deux pieds tendus. Et donc, à partir de ce moment-là, je vais commencer à leur apporter un certain nombre de solutions techniques pour leur permettre de progresser dans leur performance. Alors, quand je leur propose des solutions techniques, je leur propose différents types de solutions techniques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une technique, mais il y a plusieurs techniques possibles. En lancer de javelot, par exemple, je peux prendre mon javelot pouce index. Et je peux prendre mon javelot majeur et pouce, avec l'index le long de la hanche du javelot. Donc il y a un bien-être, il y en a qui se sentent mieux avec le pouce et l'index, d'autres qui se sentent mieux avec l'index le long du javelot. Donc en saut en hauteur aussi, je leur propose différentes techniques. Ça peut être le saut en ciseaux, le saut en ventrale, qui ne se fait plus du tout, mais le Fosbury. Et en Fosbury, il y a différents types de techniques. Il peut y avoir, je peux lancer projeter mon bras au moment de la pulsion, je peux projeter les deux bras ou je peux pas du tout les projeter. Je peux aussi jouer sur la vitesse ou je peux jouer sur la qualité de l'impulsion. Donc une technique n'est pas rigide et je leur propose toujours des alternatives techniques pour qu'ils soient eux toujours en amont de la technique, soit eux qui décident. Donc une fois qu'on s'est donné un projet de technique, je vais d'abord leur présenter, leur faire une démonstration de la technique. Alors, si c'est leur roulade avant, j'en fais la démonstration de la roulade avant, à vitesse réelle. Et je leur donne un certain nombre de projets d'observation. On va étudier la technique, non pas dans le projet de la refaire, mais dans le projet de l'étudier. On va faire une étude en troisième personne de la technique. Donc je vais leur donner des projets de « Tiens, regardez ce que font mes bras, regardez ce que font mes pieds, regardez ce que font ma tête pendant… » Alors je fais deux ou trois démonstrations et je les interroge. « Qu'est-ce que vous avez vu ?» Et je leur demande « Ah, tiens, je vais poser mes mains ici. Mais pourquoi, d'après vous, pourquoi je pose mes mains là plutôt que là ?» Et donc là, je les sollicite sur les… Quelles sont les causes, quelle est la logique interne de la technique, qu'est-ce qui permet d'expliquer ces choix techniques. Et donc là, j'essaie de nourrir tous les expliquants, ceux qui ont besoin de causalité. Une fois qu'on a étudié la technique, je propose qu'ils se mettent en projet de réalisation de la technique. Donc là, je la montre, je les mets en projet d'évocation et je leur montre la technique, je leur décris la technique, alors pas une description uniquement sur ce qu'on voit, mais une description sur ce qui est vécu par celui qui fait la technique, qui réalise la technique. sur ce qu'il peut ressentir, à quel moment il doit agir, et quel, les muscles qu'il doit relâcher à tel et tel moment. C'est-à-dire quand je fais une foulée de sprint, la jambe arrière, je ne vais pas remonter volontairement mon pied à l'arrière, mon pied il remonte naturellement. Et la jambe revient naturellement sous forme pendulaire. C'est pas moi qui volontairement, voilà, il y a une action de la gravité qui ramène mon genou vers l'avant. Donc ça, je dois signifier à la... Je peux y aller. Donc je dois signifier aux élèves quels sont ce qu'ils doivent faire. Et ce qui est de l'ordre du lâcher prise, de la découpe. Donc, j'ai des démonstrations visuelles en troisième personne, et j'ai aussi des descriptions verbales du mouvement. Une fois que on a fait ce travail-là, je leur laisse du temps pour évoquer la technique dans le projet de refaire la technique. Voilà. Donc, à ce moment-là, je leur laisse du temps. S'il y a beaucoup d'élèves qui me demandent de refaire. Quelquefois, je peux faire 10 fois la roulade avant, et au bout d'un moment, j'ai la tête qui me tourne. Et une fois que les élèves se sentent prêts, je leur dis, voilà, vous allez vous exercer partout dans le gymnase où vous voulez. Hein. Attention, et je leur définis bien un périmètre pour qu'ils soient en sécurité, mais je ne les mets pas en ligne où je dicte le rythme des mouvements. Eux qui s'exercent, et moi après, je circule dans les groupes et là je suis amené à les accompagner dans leurs apprentissages. Parce qu'une fois que j'ai montré tous les mouvements, tout reste à faire pour eux.